Merci Seigneur, nous pouvons venir à toi et te consacrer à nouveau ce temps. Nous prions que tu purifies vraiment nos oreilles ce matin pour entendre ce que ton esprit dit. Et nous voulons retourner cet amour que tu as pour nous envers toi. Nous voulons te donner le meilleur de ce que nous avons. Nous voulons t'aimer de tout notre cœur. Vraiment nous donner complètement à toi. Merci pour ta parole dans ces jours. Transforme-nous entièrement à ton image. Parle-nous dans ces jours. Lave-nous et purifie-nous, Seigneur. Nous prions que tu renouvelles notre esprit et que tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation. Que tu parles à ton Église aujourd'hui. Seigneur, nous voulons vraiment être lavés. Nous voulons entendre ta voix. Nous prions que ce matin, ton fardeau soit vraiment répandu. Seigneur, nous prions que tu puisses vraiment libérer ton fardeau ce matin. Merci pour ta parole dans Malachie. Nous te demandons que, en nous parlant, tu puisses aussi nous purifier, renouveler aussi l'esprit de notre intelligence et nous amener de plus en plus dans la réalité. Nous ne sommes pas là juste pour apprendre quelque chose, mais nous voulons te gagner. Nous voulons que ça ait un effet sur nous et que ça nous transforme. Merci. Sois avec nous dans la communion ce matin. Nous voulons toucher nouvellement ton amour pour nous. Nous voulons que notre amour pour toi grandisse. Nous ne voulons pas t'adorer des lèvres et que notre cœur soit éloigné de toi. Oui, Seigneur, nous prions que notre cœur reçoive ta parole. Que nous ayons des oreilles pour entendre ce que tu dis aux églises. Purifie nos cœurs. Nous voulons plus t'aimer et d'une manière plus profonde. Nous voulons être ces sacrificateurs pour toi qui te servent selon ta volonté. Parle-nous, Seigneur. Amen. Nous tournons vers toi dans cette conférence. Tu adresses ta parole à ceux qui te cherchent avec diligence. Merci pour cet amour, ce premier amour dont tu nous aimes. Nous voulons aussi t'aimer. Tu veux que nous soyons saints et irréprochables. Nous voulons t'expérimenter en réalité. Que rien dans notre conduite ne soit juste commun. Nous voulons grandir dans la crainte de l'Éternel. Lave nos cœurs ce matin, Seigneur, pour entendre et avoir un bon terrain pour recevoir ta parole. Seigneur, nous voulons revenir au premier meilleur amour pour toi. Nous nous repentons de toutes les fois où nous avons abandonné ce premier amour. Nous désirons voir cet amour abonder dans l'Église, dans ton sacerdoce royal et saint. Merci Père, parce que ton amour pour ton amour pour ton sacerdoce n'a jamais changé. Nous voulons t'aimer de la même manière que tu nous as aimés. Nous voulons être de ceux qui ne disent pas seulement, mais qui font. Et montrer notre amour dans le sacerdoce. Que nos offrandes te soient agréables. Nous voulons connaître ton cœur comme c'est messager. Nous ne voulons pas croire que nous savons, mais nous voulons savoir de ta part. Nous voulons que tu puisses nous parler. Sauve-nous de tout ce qui est vieux en nous. De ce qu'il disait. Parle-nous ce matin, Seigneur. Nous voulons avoir des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur, nous voulons être. Nous voulons nous repentir, Seigneur, et avoir le meilleur amour pour toi. Notre amour est seulement pour toi, Seigneur. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur. Tu es la nourriture dont nous avons besoin. Nous voulons te manger, en te mangeant, être transformés. Accorde-nous l'esprit qui donne la vie. Tu es l'esprit qui donne la vie. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Nous te prions pour ta parole dans ces jours. Nous prions qu'aujourd'hui tu puisses libérer ta parole. Que ta parole se répande sur toute la terre et que les églises puissent vraiment avancer pour ton retour. Nous voulons t'aimer de plus en plus. Nous voulons rester sur le chemin qui mène au but. Parle-nous, Seigneur. Nous te louons de ce que nous pouvons venir ensemble sur ce chemin. Nous te prions. Et nous te disons, Seigneur, nous t'aimons et nous voulons t'aimer plus. Seigneur, nous voulons nous repentir. Nous voulons avoir ce premier amour pour toi. Sauve-nous de notre cœur méchant. Donne-nous une véritable urgence. Nous ne voulons pas prendre ces mots comme venant d'un homme, mais saisir vraiment ce qui vient de toi. Parle à chacun de nous. Montre-nous comment tu veux perfectionner ton Saint-Sacerdoce et amener les églises de l'avant. Seigneur, nous venons avec un cœur repentant devant toi. Sans croire que nous savons déjà. Amen. Père, nous prions que tu nous parles au travers de ce livre de Malachie. Nous avons tous besoin que tu parles. Les églises ont besoin de ta parole vivante. Nous prions que ce matin et dans toutes les églises, tu parles par ton esprit aux églises et que nous ayons tous une oreille qui entende. Pour que ta parole se répande et accomplisse ta volonté. J'espère que vous entendez ma voix parce que j'ai un peu la gorge irritée. Parle de technique dans la salle. Seigneur nous aime vraiment. Depuis avant la fondation du monde, il nous aimait déjà. Et son amour ne change jamais. Notre amour change. Le matin, tu aimes papa et maman. Et puis l'après-midi, tu les aimes plus trop parce que ils t'ont puni. Et le soir, tu rechanges. Notre amour est fluctuant constamment, malheureusement. Ça, c'est notre amour humain. Mais l'amour de Dieu ne change jamais. C'est vraiment magnifique. On a besoin de réaliser cela. Christ aime l'Église. Et il s'est donné lui-même pour l'Église. Par le passé, j'ai vu beaucoup de personnes dire qu'ils aimaient l'Église. Mais quand les épreuves sont arrivées, ou qu'il y a eu des offenses, ou des problèmes ici et là, alors soudainement, ils n'aimaient plus tant l'Église. Je suis reconnaissante que notre Seigneur ne soit pas comme ça. Si l'amour du Seigneur pour toi et moi changeait constamment, alors on serait dans de grands troubles. Systématiquement, quand je me tourne vers le Seigneur et je vois mon état, Seigneur, pourquoi m'as-tu choisi? Je suis pas digne. Est-ce que Marina, tu as été choisie parce que tu es la meilleure personne sur Terre? Non. Paul a dit qu'il était le pire des pécheurs, mais Dieu l'a choisi. Je ne crois pas que Paul ait un jour oublié qu'il avait fait tant de mal en persécutant l'Église et qu'il était responsable de la mort d'Étienne. Et il dit qu'il était un des pire pêcheur, un des chefs pêcheurs. Et il dit, mais je ne suis pas digne d'être un des apôtres parce que je suis un pêcheur. Mais Dieu l'a aimé. Il l'a choisi. De la même manière qu'il t'a choisi et qu'il m'a choisi. Pas parce que nous sommes bons. C'est ce que Dieu a dit au peuple d'Israël. Je ne vous ai pas choisi parce que vous êtes un bon peuple. Mais il l'a fait pour sa propre gloire. Et parce qu'il nous a aimés. Parce qu'il est Dieu et qu'il sait toutes choses. Il sait déjà le futur avant que ça arrive. Il sait tout dans le passé. C'est pourquoi, quand Dieu dit à son peuple, je vous ai aimé, le peuple dit, en quoi nous as-tu aimé? Tu nous as laissé aller dans plein de problèmes. J'ai eu tellement de problèmes et tu ne m'as pas aidé. On murmure, on se plaint. Tu ne murmures pas? On le fait tous, on se plaint tous. Seigneur, pourquoi et comment? Rebecca, est-ce que tu demandes comment? Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? On se plaint tous. souvent pour sentir cet amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est aussi de nous laisser passer par des épreuves. Mes petits enfants viennent d'avoir un chien et le chien, il pleure. Je suis désolée, moi, pour ce chien. Et j'ai eu l'impression que eux, ils s'en fichaient. Mais en fait, ils sont en train d'apprendre. On a la traduction allemande. J'ai cru que mes enfants s'en fichaient, que cet enfant, ce chien pleurait. Mais en fait, ils sont préoccupés, mais ils ont besoin de le dresser. C'est pour ça qu'ils réagissent comme s'ils s'en fichaient que le chien gémisse. Mais ils ne négligent pas le chien. Ils l'entraînent. Ils l'aiment. Mais j'ai eu le sentiment, ah, oh, mais il le maltraite, il a faim, donnez-lui à manger. J'ai cru qu'il le maltraitait, mais en fait, ils sont en train de le dresser à être un chien obéissant, à être un bon chien, à être un chien obéissant. Souvent, ce père aimant nous entraîne, mais on ne le comprend pas, on ne le saisit pas. Pourquoi? On prie, Seigneur, oh, j'ai besoin d'aide là, maintenant, tout de suite. Et je suis tellement impatient. Comme le chien, comme ce petit chien. Tellement impatient. Mais en réalité, c'est l'amour du Père. Mais les hommes ne comprennent pas ça. Le peuple ne comprenait pas ça. Ils disent, pour en quoi nous as-tu aimés? C'est Malachie 1-2. Disent, en quoi nous as-tu aimés? Tu n'étais pas occupé de nous. Mais le Seigneur les a aimés. Il n'y a pas eu un seul moment où ce Dieu ne s'est pas préoccupé d'eux. Ne crois pas si tu traverses des épreuves qu'il s'en fiche. Non, il s'inquiète pour toi plus que toi-même. La différence que lui, il sait ce qui est bon pour toi. Et souvent, on abandonne juste le premier amour. On est distrait. On est distrait par tellement de choses. En quoi nous as-tu aimés? Comment Dieu peut nous prouver qu'il nous aime? C'est tellement difficile pour Dieu de nous prouver son amour. Mais plus on grandit et plus on est mature dans la vie, plus on le comprend aussi et plus on va comprendre combien il nous aime. Et le sacerdoce, comme on a partagé hier, pour ce sacerdoce, il faut connaître l'amour de Dieu. C'est très très important. Pas besoin de le répéter. J'aimerais juste l'accentuer. Dans sa sagesse, Dieu a donné une réponse magnifique. Peut-être que vous ne voyez pas que la réponse est magnifique. Dieu revient à l'histoire. Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Très souvent, il faut revenir dans l'histoire pour voir que Dieu nous aime. Tu connais ton histoire, n'est-ce pas? Je crois que chacun connaît sa propre histoire. Si je regarde en arrière à mon histoire, aujourd'hui, je dois vraiment confesser, il m'aime. Parce qu'après toutes ces années, je suis encore là et il n'a toujours pas abandonné. Tu crois qu'il ne m'aime pas? Est-ce qu'il t'aime? Il est revenu aussi loin que possible, vraiment tout début. Même pas à Abraham, mais il est venu à Jacob. Pour avoir un peuple, il a commencé avec Abraham. Et par Abraham, il a eu Isaac. Et par Isaac, il a eu Jacob. Maintenant, dis-moi, pourquoi est-ce qu'il a commencé avec Jacob? Abraham était seul quand Dieu l'a appelé. Abraham est un ami de Dieu. Mais ensuite, Abraham a eu deux fils et là, il y a déjà un choix. Il y a déjà un choix pour Abraham. Un est le fils d'Agar et l'autre est le fils de Sarah. Et pour raccourcir l'histoire, très clair pour nous que Ismaël n'est pas le choix de Dieu. C'est très clair pour tout le monde. Parce que ce n'est pas par Sarah. Dieu a dit à Abraham que ce serait l'enfant de Sarah. Mais parce qu'elle était stérile, Abraham et Sarah ont essayé d'avoir. Ils ont essayé de trouver une solution par eux-mêmes pour avoir un héritier. Avec le conseil de Sarah, prends ma servante et elle est directement fertile et Ismaël est né si rapidement. Tu veux un travail rapide? Si tu veux faire un travail rapide, oui, tu peux le faire. Tu peux le faire de plein de manières différentes. Pour gagner des personnes, tu peux avoir un groupe, tu peux avoir un super prédicateur. Il y a plein de moyens de gagner beaucoup de personnes. Sans prier, sans jeûner, sans demander au Seigneur. Le faire. Pour donner naissance à un héritier, il ne pouvait pas attendre. Mais Dieu attendait qu'il soit vraiment dans le dernier désespoir où ils disent vraiment non, mais c'est impossible. Est-ce que Dieu a accepté Ismaël? Non. Il y avait un choix très clair que non, ce n'était pas lui. Et après ça, Sarah, quand c'était vraiment plus possible, même naturellement, qu'elle porte un enfant, alors là, Dieu a permis. Elle est tombée enceinte et elle a eu un fils nommé Isaac. Je ne sais pas si Isaac est un très bon nom. Ça veut dire rire. Parce que quand Sarah a entendu Dieu qui disait que l'année prochaine elle serait mère, elle a ri. Elle a ri quoi, moi? Plus, c'est impossible. Dieu a entendu son rire et lui a demandé: Pourquoi as-tu rire? As-tu ri? Personne ne l'avait vu rire. Mais quand le temps est venu, Isaac est né. Et dans Galates, Paul nous dit, dans Galates 4, Paul nous dit que Ismaël est né selon la chair. Et Dieu ne va jamais accepter ce qui est né de la chair. Mais le premier-né, celui qui est né de la chair, il est chassé, il est rejeté par Dieu. Agar a été chassée avec son fils. Ça ne peut pas, ce qui est charnel ne peut pas hériter. Mais ce qui est né de l'esprit, celui qui est né de l'esprit, est l'héritier. C'est une image de la Jérusalem céleste. Seulement ce qui est né de l'esprit. Il y a une séparation très claire ici. Et maintenant, il y a la troisième génération. Quand Jacob est né avec Ésaü. Combien sont nés de Rebecca? Deux. Des jumeaux. Qu'est-ce que ça signifie, des jumeaux? Ils se ressemblent beaucoup, n'est-ce pas? Ils viennent de la même graine. Pour Agar et Sarah, c'est deux sources différentes. Mais là, pour des jumeaux, c'est la même source. Qui était le favori de Jacob? C'était Ésaü. Le préféré de Isaac, c'était Ésaü. Selon un choix naturel, mais Rebecca, la mère, préférait Jacob. Lequel est le meilleur? C'est très dur de choisir. Le père préfère le premier-né et la mère préfère le deuxième qui est né. C'est un choix très difficile. Mais c'est Dieu qui a fait le choix. Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est une parole très dure. Il a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Déjà avant leur naissance, Dieu avait fait le choix parce qu'il savait. Dieu connaissait la fin. C'est à ce point-là que Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ésaü représente notre homme naturel, nous-mêmes. Et ils sont jumeaux. Le Seigneur veut sauver notre âme. Mais après la chute, l'âme est devenue l'homme naturel. Le moi. Et le moi veut voler notre droit d'aînesse. J'ai pas besoin d'entrer trop dans le détail. Je crois que j'ai listé ici quelques versets dans Genèse 25 et 32. Vous pouvez les lire dans Hébreux 12 aussi, 16 à 17. Ésaü a volé le droit. Il devait avoir le droit d'aînesse. Mais il a vendu son droit d'aînesse pour un mets, pour un plat de soupe, juste pour un repas. Il revenait juste de son sport, de la chasse, de son hobby. Mais il avait tellement faim. Et Jacob était là, en train de préparer un plat. En train de préparer une soupe de lentilles. Et Ésaü lui dit: Oh, je meurs de faim. Tu crois qu'il mourrait vraiment? Tu es en train de mourir juste pour un bol de soupe? Là, le terme profane décrit vraiment à quel point Ésaü n'a pas apprécié, n'a pas donné de la valeur à ce qui venait de Dieu et ce qui était saint, ce qui venait du temple de Dieu. Mais il a juste regardé à sa propre satisfaction. Et donc, il a dû payer. Jacob n'est pas un exemple d'obéissance, de droiture. Il avait ce bol de soupe. Il lui a dit: Ok, mais tu dois payer. Qu'est-ce que tu payes? Ésaü lui a dit: Ce que tu veux. Jacob lui dit: Ben, donne-moi ton droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est vraiment la chose la plus précieuse que tu puisses avoir. C'est ce qui amène l'héritage, la bénédiction de Dieu, le sacerdoce, c'était pour les premiers-nés, la double portion de l'héritage et la royauté. Pour régner. À la fin, quand tout est parti, qu'est-ce qui reste? Quand le Seigneur revient, tout le reste sera fini. Tout sera jeté quand le Seigneur revient. Ça signifie que Ésaü est profane. Il n'a rien apprécié qui soit saint, qui appartienne à Dieu. Il a méprisé son droit d'aînesse. Et ça, c'est notre âme, notre ego. Sois prudent. Si tu es tellement pour toi-même, tu vas perdre ton droit d'aînesse. La profanation d'Ésaü est d'avoir méprisé son droit d'aînesse, de ne pas l'avoir apprécié. Et c'était juste pour la satisfaction de son âme. Dieu lui dit: Mais sauve ta vie aujourd'hui. Ah, si on méprise en fait quel prix est-ce qu'on donne? En réalité, c'est notre droit d'aînesse qui est en jeu. Est-ce qu'à la moindre convoitise, on est prêt à le mépriser pour avoir cette convoitise? Si tu as un magnifique repas avec dessert magnifique et un super plat, un bol de soupe, est-ce que ça vaut plus pour un moment de satisfaction? Est-ce que ça vaut plus qu'un droit d'aînesse? Tu vends ton droit d'aînesse? Est-ce que ça vaut la peine? Parfois j'ai pensé, je suis tellement fou pour avoir la satisfaction de mon âme juste pour 5 minutes ou même 1 heure. Pour avoir pu aller jouer au basket pendant un moment. Après que le jeu soit fini, est-ce que tu es satisfait? Qu'as-tu gagné après cela? T'as perdu. Même si l'équipe a gagné, toi tu as perdu. Qu'as-tu perdu? Ton droit d'aînesse. Une part de ton héritage. Tu gagnes le monde entier, dit le Seigneur, mais tu perds ton âme. Ça, c'est Ésaü. C'est ton jumeau. Ton jumeau. Tellement proche de toi. C'est toi, enfin c'est le toi déchu, l'homme naturel. C'est pour ça que Dieu dit, l'homme naturel du chrétien ne reçoit rien de spirituel. On le comprend mais on ne l'apprécie pas. Parce que si vraiment on l'appréciait, on le désirerait. Et c'est pourquoi, ici, spirituellement, je ne parle pas justement de Jacob et Ésaü dans la chair, mais vraiment en quoi ça s'applique à nous. On a tous besoin de voir que Dieu est, il haït Ésaü. Qu'en est-il de Jacob? Est-ce que c'est un homme bien? Est-ce que Jacob est un bon nom? Est-ce que Jacob est un bon nom? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie le supplanteur. Il est toujours en train de réfléchir comment je peux avoir avantage sur toi. C'est un supplanteur. Il est toujours en train de réfléchir comment avoir ce qu'il veut. Un trompeur, supplanteur. Il n'est pas vraiment méchant et il n'est pas bon non plus. Mais pourquoi Dieu l'a aimé? Parce que le plan de Dieu était de pouvoir le transformer. On est tous des hommes déchus. Mais Dieu voit ce qu'il peut investir en toi. Il veut nous gagner par notre transformation. Ésaü, tu peux pas le changer, il faut le crucifier. C'est pour ça que Paul dit, j'ai été crucifié. Ce n'est plus moi qui vis. C'est très difficile de se débarrasser de ça. Notre vie entière doit être une vie de transformation. J'ai rencontré tellement de chrétiens qui ne changent pas, qui ne veulent pas changer. Nous sommes terribles. Mais Dieu peut nous changer. Es-tu volontaire pour changer? Et Dieu t'aime. Il veut que tu changes pour te changer à l'image de Christ. La vie chrétienne, sans aucun changement, en particulier après tant d'années à être chrétien, on est toujours le même. Ta propre personnalité est encore là. C'est pas bon. Être Jacob n'est pas bon. Il a désiré suivre Dieu, toujours le chercher, le suivre, parce que Dieu a toujours l'a toujours suivi, a toujours cherché à le transformer. Tu crois qu'il était très intelligent, mais il a tellement triché. On a tellement triché à son sujet et lui-même a tellement triché. Pour le changer. On ne crois pas être si intelligent. Tu crois que tu es intelligent et que Dieu va... Si tu penses que tu es si intelligent, Dieu va te mettre dans un environnement qui est plus intelligent que toi. Il a de merveilleux moyens de nous changer. Apprends de la situation. Ne murmure pas. Dis, fais toute chose sans murmure. Parce que Dieu peut utiliser la situation pour nous enseigner. Et si on n'a pas appris, alors il faut répéter. Si tu ne passes pas l'année, tu dois la refaire. Et si tu ne passes toujours pas, tu dois encore la refaire jusqu'à ce que tu puisses passer à l'année suivante. C'est le chemin de Dieu. C'est la raison pour laquelle il aime Jacob. Parce que Jacob est volontaire pour changer. Même s'il est fort, il est très fort. Il s'est battu avec Dieu. Il a argumenté avec Dieu. Il a négocié avec Dieu. Il a fait des promesses. Si tu fais ça, je ferai ça. C'était un bon négociateur, Jacob. Mais laissez-moi vous dire, on ne peut jamais gagner contre Dieu. Il va peut-être nous autoriser à négocier. Si tu fais ceci pour moi, alors je ferai ça pour toi. Dieu est parfois d'accord dans ce genre de négociation, mais pas systématiquement. Quand Jacob est allé à la rencontre d'Ésaü, il était sûr que son frère allait le tuer. Il a essayé de l'acheter cette fois-ci. On se dit que c'est Jacob qui a volé le droit d'aînesse d'Ésaü, mais en fait non, c'est Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse. du fait qu'il a eu ce droit d'aînesse, il a dû fuir la maison. C'est pas parce qu'on a la bénédiction qu'on va pas avoir de problème. J'ai eu beaucoup de soucis dans ma vie chrétienne. Et on espère toujours qu'il y en aura moins. Mais il y en a plus. Mais maintenant, je dis vraiment au Seigneur, Seigneur, fais comme tu veux. Mais c'est le chemin. C'est par Jacob, dans son processus de transformation, qu'il est devenu Israël. En particulier quand il s'est battu avec Dieu et qu'il ne voulait pas laisser Dieu partir. L'ange de l'Éternel, c'était en réalité l'Éternel lui-même. Et il a dû lui dire, laisse-moi partir, laisse-moi partir. Et Jacob a dit non. Non, jusqu'à ce que tu m'aies béni. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. C'est une très bonne attitude, ne laissons pas Dieu partir si facilement. Alors Dieu a touché le tendon de sa hanche. Ensuite, ça a été douloureux, il a laissé Dieu partir. Et il lui a dit, ton nom n'est plus Jacob, mais Israël. Prémisse de l'Éternel. Dieu a changé son nom. Dans la Bible, changer de nom est une transformation. Comme il a changé le nom de Pierre après qu'il ait vu la transformation, il lui a dit, tu n'es plus Simon, mais maintenant tu es Pierre. Une pierre pour l'Église. Tout ce processus est une preuve que Dieu a aimé Jacob. J'ai aimé Jacob. C'est pas parce que Dieu a aimé Jacob qu'il lui a donné une très bonne vie et qu'il n'a dû traverser aucune épreuve. Mais non, il a eu tellement de difficultés pour il a eu tellement de difficultés, puis il a eu ses 12 fils et une fille. Mes parents ont eu 13 enfants. C'est encore un mystère pour moi. Comment peux-tu avoir 13 enfants? Mais enfants, c'est pas si simple. Et ses 12 fils lui ont donné beaucoup de troubles. Et ils ont vendu celui qui était son favori. Et ils ont dit à leur père qu'il était mort, qu'il avait été tué. Jacob est allé au travers de tellement de troubles. Mais tu peux voir à la fin toutes ces bénédictions de Jacob. Avec les 12 tribus. C'est comme ça que Dieu gagne son peuple. C'est l'amour de Dieu. Malheureusement, le peuple de Dieu a refusé d'être changé. Que peut-on dire? Il n'y a rien à dire. Dieu nous aime vraiment. Souvent, je demande à Dieu, si tu nous aimes, comment c'est possible que nous soyons comme rien? Regarde l'Église catholique comme elle est grande. Regarde, il y a tellement d'organisations qui sont si grandes. Et regarde-nous. Juste quelques-uns. On est comme rien. Si peu nombreux. Seigneur, est-ce que c'est ton amour? Est-ce que vraiment tu nous aimes? Que penses-tu, frère? Il nous aime? Alors, s'il nous aime, comment ça se fait que la salle ne soit même pas remplie? Est-ce que c'est de l'amour, Marina? Nous sommes les élus de Dieu. Ismaël signifie l'âne. Seigneur nous aime et à cause de son amour, il nous sauve constamment et il nous transforme. Veut nous transformer, même aujourd'hui. Il y a encore des aspects dans ma vie et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux changer. J'ai besoin de ton aide, peu importe ce que ça implique, j'ai besoin de changer jusqu'à ce qu'on soit perfectionné. Pour être perfectionné et parfait comme tu es parfait. À l'extrême, complètement. Mon âme, mes émotions. Être sanctifié complètement. Esprit, âme et corps. Pour être saint et sans défaut à la venue de notre Seigneur Jésus. Pas après ton retour, mais déjà avant ton retour. C'est l'amour de Dieu. Ne vous méprenez pas sur son amour. Et pour le sacerdoce, comme on en a parlé hier, il faut connaître l'amour de Dieu. On va être offensé, on va être fâché. Tu peux ne pas aimer quelque chose, mais que vas-tu en faire? J'aime pas ci, j'aime pas ça. Ok. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu aimes constamment ta famille ou après que ton père t'ait appelé, tu dis oh non, c'est bon, je quitte la maison. Tu fais ça? Non. Si tu es Ésaü et que tu es tellement en toi-même, facilement offensé. Tu risques de perdre ton héritage et vendre ton droit d'aînesse. Alors à la fin, comme l'Église à Éphèse, tu auras abandonné ton premier amour. Le peuple de Dieu. Sont devenus insensibles à l'amour de Dieu. Maintenant, lui donne quelques descriptions. Verset 3. J'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. C'est juste devenu un lieu pour les chacals, pour les animaux sauvages, les coyotes. Si Édom dit nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ne crois pas que ce soit si simple de se débarrasser de toi-même, de ton moi. Si Dieu détruit, nous on dit tellement vite, non, je vais revenir et restaurer les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées, qu'il bâtisse, je renverserai. Louons Dieu. Si on rebâtit 10 fois, le Seigneur va détruire 11 fois. Et on les appellera pays de la méchanceté. Le moi du vieil homme est méchant. Il a du désir pour l'impureté, pour l'amour du monde. C'est pour ça que Jean dit n'aimez point le monde. Seigneur dit, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Malachie 1, verset 4. Il faut vraiment avoir la croix. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il avait appris la leçon, ce n'est plus moi. Il disait, j'ai fait tellement plus que les apôtres, mais ce n'est pas moi. Il ne dit pas, j'ai fait ça, je suis allé là. Je peux faire ceci ou cela. Je suis le responsable, je suis celui qui guide. Je suis ceci, cela. Tu devrais apprendre à dire, je ne suis rien. Je ne suis rien. Parce que nous ne sommes véritablement rien. Le je décrit ici vraiment Ésaü. Ne t'élève pas. Seigneur dit, tu veux suivre l'agneau partout où il va, alors renie. Renie-toi toi-même. C'est mon opinion, j'aime ceci, j'aime cela. Quel est ton héritage? Tu dois identifier. Oh, ça c'est Ésaü. Ça c'est Ésaü. Dieu a de la haine pour Ésaü. Et si nous apprenons à renier notre vie de l'âme, c'est pour ça qu'on a le jour des expiations, pour affliger notre âme. Et si on gémit comme ce petit chien, les bébés pleurent et gémissent. Je croyais que c'était les seuls à le faire, mais en fait non, ce petit chien, il fait la même chose. Dans plus d'une heure. Je suis contente qu'il soit juste un invité chez moi. Mais c'est vraiment Ésaü. Peut-être il faudrait renommer le chien. Je vous le dis, si on apprend à renier notre moi, à prendre notre croix et le suivre, et affliger notre âme, prendre le jour des expiations, alors, verset 5, dit vos yeux le verront. Et vous direz, grand est l'Éternel par-dessus les frontières d'Israël. Ça veut dire qu'après que le travail soit fait, Dieu va, par la nation d'Israël, régner sur toute la terre. Ça veut dire que son règne va aller au-delà des frontières d'Israël quand son jour vient. Alors il va régner sur toutes les nations. Veux-tu rater cela ou veux-tu prendre part à cela? Maintenant, il faut aimer vraiment Jacob. On doit apprendre à haïr notre moi, haïr la vie de l'âme. L'ego, l'homme naturel, et apprendre à dire non. Non à l'homme naturel. Reste assis. Besoin de repentance. C'est pour ça que dans Malachie, Dieu dit revenez à moi et je reviendrai à vous. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de voir cela. Point C du résumé. On voit que le peuple est devenu insensible. Ne soyons pas insensibles à Dieu. Revenons à l'Éternel. Dans Romains 8, juste pour tous nous encourager. Romains 8. Des petits soucis informatiques. On peut commencer au verset 28. Romains 8, 28. Je vous le lis. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour le bien de Jacob. Si on aime Dieu, tout concourt à notre bien. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance. C'est la raison pour laquelle il a choisi Jacob, parce qu'il savait ce qui se passerait entre ses deux frères. Il savait. C'est pas qu'il a haï un des deux, mais il savait d'avance. Il a choisi Jacob. Dieu savait. On doit réaliser qu'on est des pécheurs. Adam a été créé sans aucun problème, Mais ensuite, une fois que Satan est entré dans le serpent, il a fait tomber Adam et l'homme est devenu mauvais. Le Seigneur a traité les hommes de race de vipères. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Ça, c'est important. Il faut avoir un désir dans nos cœurs si on est Jacob. Seigneur, je veux être semblable à l'image de ton fils. Je ne veux pas rester tel que je suis. Je refuse de rester comme je suis. Dire non, Seigneur, je veux changer. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin qu'il, donc Jésus, soit le premier-né de beaucoup de frères. Il veut avoir beaucoup de fils, comme le premier-né. Pas juste des chrétiens naturels. Il y a des chrétiens naturels, des chrétiens charnels, mais il y a aussi des chrétiens spirituels qui sont semblables à l'image du premier-né. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Y a beaucoup de travail à faire. Pas juste être justifié, mais être transformé pour devenir glorieux. C'est un long processus. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que l'ennemi peut s'arrêter? Est-ce que l'ennemi peut arrêter le plan de Dieu? Il va finir son travail. Croyez-moi, il va terminer ce qu'il a commencé. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il va aussi nous donner tout ce dont on a besoin pour atteindre le but. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui va accuser Jacob? Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous en tant que notre grand souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, qui nous séparera de l'amour de Christ, qui nous séparera de la doctrine de Christ, qui nous séparera de l'enseignement de Christ. Non, qui nous séparera de l'amour de Christ. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Qu'en est-il de la famine? Un bol de soupe? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est l'expérience de Paul. Toute sa vie au service de Dieu, il a été comme une brebis qu'on mène à la boucherie, pas juste une fois. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, par celui qui nous a enseignés, dit. par celui qui quoi? Qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. À nous séparer de quoi? On peut le proclamer, de l'amour de Dieu. Combien de fois parles-tu de l'amour de Dieu? L'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Si cet amour est absent, alors, on n'a plus rien d'autre à faire que d'abandonner. Parce que sinon, on fait juste des choses. Mais louez le Seigneur pour ce magnifique amour. Jamais, au grand jamais, n'abandonne cet amour, ce premier amour. Si on le fait, alors on est déjà tombé. On peut aller sur le point 3 du résumé. Ça me semblait tellement important, je voulais pas aller trop vite sur ce premier aspect. On peut aller au point 3 ce soir. Il y a un certain nombre de points. On peut. On peut aller assez rapidement. C'est vraiment. On peut vraiment voir que le Seigneur reprend les sacrificateurs infidèles. Et là, on voit combien le sacerdoce est important dans le plan de Dieu. On peut s'arrêter là et puis avoir un peu de communion et de prière. On va prendre pour acquis le processus de transformation. Il n'y a pas de transformation, c'est pas normal. Si après 50 ans, un enfant a toujours cette taille-là, 50 ans après, il est toujours. Il reste un enfant, il ne grandit pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu serais préoccupé? Tu te dirais qu'est-ce qui ne va pas avec mon enfant? Chaque jour, tu irais chez le médecin pour savoir ce qui se passe. Mais qu'en est-il des enfants de Dieu? Pas de changement. Chaque mois, chaque année. On devrait être changé. Ce n'est pas normal que année après année, en tant que chrétiens, nous soyons les mêmes. Devrions nous sentir préoccupés par ça. Mais à mon âge, je veux encore changer. Je veux encore persévérer, avancer. Parce que aussi longtemps que je suis en vie et j'ai besoin de plus en plus de transformation, qu'est-ce que je vais faire des 4 années qui viennent? Je veux être changée, transformée. C'est très important, ne crois pas que ça ne soit pas important. Mais si tu ne changes pas, tu vas rester coincé parce que tu ne changes pas. les enfants de l'école enfantine ou de la maternelle jusqu'à la fin de leur scolarité, ils changent. Ils continuent constamment d'apprendre de nouvelles choses. Mais en tant que chrétien, tu restes juste le même. On reste juste les mêmes. Mais on a besoin de constamment grandir, gagner Christ de plus en plus. Si les hommes ne changent pas. J'ai connu des chrétiens après tellement d'années dans des groupes. C'était toujours les mêmes. Ça montre aussi que notre vie chrétienne est morte. Parce que si on est mort, on ne change pas. On se corrompt simplement. On ne grandit plus. Donc la question de Jacob qui est transformé, parle pas de ça. Je vous parle de vous et moi qui devons changer. Je parle pas de doctrine. Si c'est juste une question de doctrine, alors tu peux oublier. Mais le Seigneur veut voir chacun de nous changer chaque jour, chaque semaine. Chaque mois. Et on doit être désespéré, persévérant, de demander au Seigneur de nous transformer. Je veux que ça, ce soit dans mon cœur. Je veux plus que ça, ce soit dans mon cœur. Seigneur, montre-moi comment. Et affermis-moi dans mon homme intérieur. Ne laisse pas le Seigneur juste partir si facilement. Si tu veux changer, tu dois collaborer avec le Seigneur. Comme à l'école, tu veux grandir. Tu veux atteindre l'objectif. Tu veux obtenir ton diplôme à la fin. Ce serait pas normal que tu passes l'année mais sans avoir rien appris. On doit être de ceux qui sont transformés vers plus de gloire. Ça ne signifie rien, non, d'être plus transformé, plus de Christ, plus d'expression, plus de substance. Ou pour que toi-même, tu vois le changement. Si toi-même, tu ne peux pas voir le changement, alors qui va voir le changement? Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Ça veut dire que si les changements ne sont pas visibles en toi, alors personne ne va pouvoir les voir. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Vaut mieux savoir de quoi le Seigneur parle. Il s'agit vraiment de toi et moi. J'espère que les frères et sœurs partout qui entendront ce message vont se poser cette question. Est-ce que je suis transformée? Est-ce que je change? Est-ce que ma femme peut voir que je change? Est-ce que le mari dit à sa femme qu'il voit un changement? Est-ce que les parents peuvent dire qu'il y a une transformation dans leur enfant? Et nous, dans la vie de l'Église, on a besoin de voir pour plus de gloire. Pas un changement négatif, un changement pour pire. Mais c'est par l'amour. C'est un facteur très important. si ce facteur de l'amour manque, alors il n'y a plus rien dans l'église. C'est la même chose pour le chien. Tu dois lui montrer un peu d'amour, sinon il va te mordre. Oui, le Seigneur. On peut arrêter là.